Oui, Patrick, bonjour.
Bonjour.
Donc, découverte aujourd'hui d'un groupe, un groupe qui s'appelle Milenio.
Oui, c'est un groupe, en fin de compte, de musiciens noirs péruviens. Alors, déjà, rien que la phrase noir péruvien, ça fait toujours sourire. On arrête tout le monde dans la rue avec ça.
Oui, bon, on se pose la question, effectivement, on n'imagine pas qu'il y ait une communauté ou...
En fait, il y a une communauté noire qui est simplement une communauté de descendants d'esclaves et qui depuis 400 ans, se trouve être au Pérou. Il y a à peu près 250 000 à 300 000 personnes à l'heure actuelle. Et c'est des gens qui sont d'ailleurs en liberté, entre guillemets, par rapport à l'esclavage depuis maintenant un siècle et demi.
Ah, seulement.
Ben, on pourrait dire même déjà, parce que en fait, dans l'histoire, ils sont les tout premiers à avoir été libérés à l'époque des libérateurs, c'est-à-dire de la guerre contre de l'indépendance des colonies espagnoles, parce qu'en fin de compte, Ramon Castillo a bien compris qu'il pouvait récupérer assez facilement une armée libératrice en libérant les esclaves et en les prenant dans sa propre armée. Et puis l'influence anglaise faisait qu'on s'est rendu compte que c'était vachement bien que les esclaves se débrouillent tout seuls. Un esclave, il faut s'en occuper. C'est comme une vache ou un bœuf. Hein. Il faut le nourrir, il faut le loger, il faut l'habiller. Alors que par contre, un homme libre, il se débrouille. Alors, conclusion, bah, c'est vachement plus facile de libérer les gens. Hein. C'est ce qu'on a fait avec nos colonies, hein, en les mettant indépendantes.
Bien sûr. Alors, donc, le Grupo Milenio, c'est un groupe qui est important en taille. Hein.
Ben, c'est un groupe historique qui a une histoire qui est liée à 3-4 personnes qui sont les directeurs artistiques de l'ensemble, qui doit avoir maintenant un peu plus d'une douzaine d'années. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je les connais. Et en fait, c'est surtout au départ la jonction entre un danseur chorégraphe qui est Luis Sandoval et puis Roberto Arguedas qui est le directeur artistique, celui qui est actuellement ici avec les musiciens, puisque à Avignon, on a seulement 6 musiciens. En fait, au total, il y a, on va dire, un groupe complet, c'est 8 musiciens et 3 couples de danseurs, c'est-à-dire 14 personnes. Ce qui, dans les cadres d'Avignon, n'était pas ni économiquement ni techniquement facile à faire. Et c'est intéressant de présenter seulement la partie musicale et pas l'ensemble qui est pratiquement au niveau d'une comédie musicale.
Donc, c'est un groupe qui chante en espagnol.
Oui, bah, ils chantent dans leur langue natale, hein, puisque c'est l'espagnol. On pourrait dire le castillan, hein, c'est-à-dire que l'espagnol péruvien, il est un peu comme le québécois par rapport au français. C'est-à-dire que moi, celui que je parle, c'est justement le péruvien ou l'équatorien ou le bolivien. Quand je suis à Barcelone ou à Madrid, l'espagnol rigole parce qu'il me dit tout de suite où t'as appris. Quoi, parce que bon, c'est évident que moi, je parle le québécois. Quoi, donc, je parle le québécois espagnol, donc je parle le péruvien.
Donc, une langue qui est quand même, même avec les accents régionaux ou les particularismes dont tu parlais, c'est une langue qui est tellement répandue dans le monde que c'est un groupe qui devrait être facilement intégré à toutes les programmations du monde.
Bien sûr, il y a que les Américains et les Anglais qui pensent que le monde parle anglais. Parce qu'en fin de compte, on parle tous un espèce de javanais épouvantable anglais, mais l'espagnol, c'est la troisième langue parlée après le chinois et l'indien. Il y a bien plus de gens qui parlent espagnol que de gens qui parlent américain. Si on élimine la langue de communication de télévision en pseudo-anglais, en fait, dans le monde, l'espagnol est une langue extrêmement courante. Et d'ailleurs, tout le continent nord-américain parle espagnol. Hein. À Miami, personne ne parle américain. Hein. Tout le monde parle espagnol. Et on fait plaisir aux Américains en parlant américain dans la rue pour qu'ils demandent leur chemin. Mais à Miami, tout le monde parle espagnol. Et en fait, dans leur langue, eux, c'est espagnol. Il y a quand même des expressions sûrement d'origine africaine. Et bien sûr, des expressions quechua, dont la plupart du temps, d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment un sens de langue différente pour eux. Simplement, bon, effectivement, on dit ça comme ça. Mais on peut pas dire qu'il n'y a pas de réminiscence de langue africaine ou de quechua dans cette musique-là et dans ces chansons-là.
Alors, pas de réminiscence de la langue, par contre... Beaucoup de choses viennent des ancêtres.
Il y a une très très grosse réminiscence au niveau des rythmes, c'est assez curieux. Il faudra demander tout à l'heure à Roberto Arguedas. Lorsqu'il joue des tanderos, par exemple, il y a Mamma Tierra Mamma Negra, qui est le titre du spectacle qu'ils ont pris pour Avignon. On le voit aussi dans certains éléments du disque. on a un métissage complet entre les trois cultures. C'est-à-dire la culture africaine, rythme basique de percussion, une musique type andine, avec vraiment un lamento assez fort, et puis une guitare quasi classique espagnole. Et alors c'est très amusant parce que bon, on peut demander à Roberto de jouer certains extraits. Il joue à manière africaine, et puis après sur la même guitare, il le joue à la manière indienne, et après, enfin andine, et après ça, il le joue à manière espagnole, puis après ça, il dit non, ça n'a rien à voir avec ça, et puis il le joue d'une quatrième manière, qui est une espèce de mélange entre les quatre, et qui est, dans ce cas-là, la musique afro-péruvienne, c'est-à-dire celle justement de ce métissage entre l'Afrique, même si c'est des... C'est historique parce que bon, même dans les esclaves qui sont arrivés sur la côte péruvienne, hein, quelques centaines de milliers de personnes, c'est déjà des gens qui avaient été rachetés aux Caraïbes. Il n'y a pratiquement personne qui est venu directement d'Afrique. Un petit peu peut-être du côté de la Bolivie, mais en tout cas pas sur Lima. Et donc ça fait des gens qui, en fin de compte, étaient déjà considérés comme acclimatés. On allait acheter à Cuba ou à Haïti des Africains de deuxième, troisième génération parce qu'ils étaient considérés comme étant de bons ouvriers plus dociles, habitués aux coutumes d'être esclaves. Alors que bon, ceux qui survivaient au voyage venant d'Afrique, en général, ils étaient assez rétifs. C'était pas très facile d'en faire quelque chose.
Alors, dans les instruments de musique, on trouve des choses particulièrement originales, il faut bien le dire.
Oui, alors la grande base qui d'ailleurs aussi apparaît dans les chansons et puis que indirectement tout le monde connaît maintenant par le flamenco, c'est le cajón. Le cajón, d'ailleurs, le mot cajón en espagnol veut dire le tiroir d'un meuble. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est une caisse à fruits. Au départ, c'est une caisse à fruits toute bête sur laquelle on s'assoit et sur laquelle on tape sur la face qui est fermée. Alors depuis, bien sûr, la face qui est arrière, elle a été fermée avec un trou pour faire une plus grande résonance. Mais en fait, c'est une caisse à fruits. Et nous, la première semaine qu'on était là, on est parti faire une parade en ville. Ils ont récupéré toutes les caisses à fruits et toutes les caisses en bois et les bidons qui traînaient dans un dépôt devant une boutique pour pouvoir jouer dessus. C'est visiblement un instrument de récupération. Alors, cette base-là, c'est la base rythmique élémentaire avec une très très grande possibilité d'éléments rythmiques, très nettement supérieure à celui du djembé, par exemple, parce que les sonorités, en fonction de la position de la main sur le fond en bois, permettent une beaucoup plus grande modulation. Et puis après ça, il y a un certain nombre d'instruments de musique qui sont beaucoup plus typiques de la côte péruvienne, dont deux qui font toujours rire les gens. L'un, c'est une petite caisse en bois qu'on tient autour du cou, qui s'appelle la cajita, donc la petite caisse, et en fait, qui est la boîte pour récupérer les aumônes au moment des processions religieuses, dont entre autres Santa Rosa ou bien la fête des Seigneurs del Milagros. Et à ce moment-là, les gens claquaient le couvercle pour attirer l'attention et pour pouvoir se faire remarquer, pour que les gens donnent leur aumône. Bon, à partir du moment où on est effectivement avec le rythme dans la peau, ben on se retrouve à pouvoir faire des variations entières. Ils peuvent jouer à 10 et faire une heure de claquette avec la carita. Et l'autre, qui est toujours très spectaculaire, qui fait un grincement absolument terrible, c'est en fait comme la quijada. La quijada, c'est en fin de compte la mâchoire inférieure d'un âne. Le son particulier vient à la fois du fait qu'on tape dessus déjà parce que bon, ça fait un os qui sonne creux, mais en plus, comme toutes les dents sont déchaussées à force d'avoir été cuites, les dents gigotent à l'intérieur de la mâchoire et ça fait cette espèce de grincement particulier extrêmement puissant qui peut couvrir la voix. Après ça, on rajoute tous les compléments, les clochettes, les bâtons de pluie, tout ce qui peut se trouver comme instrument qu'on peut trouver. Puis je dis, même des caisses en carton ou des bouteilles, pas de problème, c'est recyclé immédiatement en base de rythme et ça se sert toujours.
Alors, la chanteuse...
Charo Guineche, elle, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'elle chante. C'est Roberto Arguedas qui l'a trouvé. Alors, c'est une voix extrêmement particulière. C'est quelqu'un qui est chanté à la maison, hein, parce que en fait, c'est des peuples qui chantent beaucoup. Elle a un répertoire traditionnel absolument colossal. Et effectivement, bon, à force, tout à coup, c'est une voix qui s'est affirmée. Je dirais que c'est un peu humainement des aventures proches de celles de César Évora. Et c'est quelqu'un qui, dans une qualité de voix, a sûrement une authenticité et gardera une authenticité parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ça. C'est pas du tout formatable. C'est pas du tout des gens d'une culture de succès ou de tube. S'il y en a un qui se fait, ben, ce sera comme Jean de Cap-Vert ou comme certains blues, parce qu'effectivement, ben, ils sont là et qu'ils sont incontournables à partir du moment où ils sont là. Et donc, Charo, en fin de compte, c'est, bien sûr, elle est le pivot principal des milléniaux. Mais entre autres, justement, ce auquel ils tiennent énormément, et moi aussi d'ailleurs indirectement, c'est le fait que c'est bien le groupe Millennium, c'est-à-dire que c'est un groupe de musiciens. Et ce n'est pas une chanteuse accompagnée de musiciens. C'est-à-dire qu'effectivement, les textes sont de Roberto Arguedas, les musiques sont de Roberto Arguedas, les arrangements sont de Roberto Arguedas, qui est le plus ancien du groupe, qui est le compositeur et directeur musical, c'est lui qui est la première guitare. Mais ça, c'est l'histoire du groupe. Roberto, il a écrit 70 chansons dans sa vie, une grande partie des chansons de Soudabaka. Personne ne sait qu'il existe parce qu'il n'a jamais demandé quoi que ce soit sur ses droits. Et en fait, si Millennium existe, c'est parce qu'ils sont ensemble. Et donc, bien sûr, bon, il y a les deux frères Yumba Lombrosio, il y a Peta Robles et sa sœur Kata qui n'est pas dans cette tournée-ci. Il y a Yuri qui est la deuxième guitare. Mais c'est un groupe de 7 personnes, dont 6 sont à Avignon. Ce groupe-là, c'est les musiciens de Millennium. Après ça, dans le Millennium où il y a une mouvance de 30-35 personnes, il y a en règle générale 3 couples de danseurs qui se rajoutent et ça fait 15 personnes pour les spectacles. Là, sur Avignon, on a seulement les musiciens, c'est parce qu'Avignon n'est pas adapté à faire un spectacle de comédie musicale aussi important. Mais on a, c'est Millennium en fin de compte qui apparaît. Et la raison d'ailleurs pour laquelle on présente toujours le groupe sous son nom et non pas sous le nom d'un spectacle. C'est Millennium cette année est venu avec Matiera Manegra, donc spectacle musical. C'est évident que je connaissais les chansons, même s'il y en a 5 nouvelles que j'ai entendues la première fois le 2 juillet quand ils sont arrivés. Là, je fais totalement confiance à la créativité. Eux, je ne sais jamais que les spectacles ils m'apportent. Hein. Je ne me pose pas la question de ce côté-là. J'ai dit à Millennium, bon, cette année, on a construit une tournée pour les musiciens, ou on a construit une tournée pour l'ensemble du groupe. Avec tant de dates. Et vienne qui vient. Et je demande seulement qu'ils m'envoient la liste des gens pour pouvoir aller faire les visas et les billets d'avion, mais ça ne me regarde pas. J'ai une totale confiance sur la qualité de ce qu'ils font. C'est un échange réel. Ils me font totalement confiance sur la production et sur la mise en place au niveau international. L'échange, il est à ce niveau-là. C'est évident que ce n'est pas des gens qu'on met dans un hôtel. Hein. Là, le bois derrière, c'est seulement qu'on est en train de manger. On va manger ensemble, donc c'en est l'un et l'autre qui fait la cuisine. Et puis, on vit comme ça pour chaque tournée. C'est un groupe qui est informatable. Essayer de formater dans les cultures occidentales, c'est le faire disparaître.
Alors, parlons de la cuisine. Le groupe vient avec son cuisinier ?
Alors, en fait, le groupe ne vient pas directement avec son cuisinier. Il s'avère que tous ces gens descendent soit des bidonvilles, soit de la côte directement. Alors, ils viennent une partie des bidonvilles de Lima. Même pour certains, il a fallu des fois 2 ans ou 3 ans de tractation pour arriver à ce qu'ils acceptent de quitter le fond du bidonville où ils avaient vergüenza. Ils avaient honte d'aller rejoindre les autres parce que vraiment, ils se considéraient comme des sous-hommes. Et puis, il y a des paysans dedans, des gens qui, effectivement, reviennent pour cultiver le coton, donner un coup de main à la famille, même si certains, maintenant, habitent assez régulièrement en Europe. Et en fait, dans ce groupe-là, effectivement, il y a un cuisinier qui a été cuisinier au Pérou, qui a été cuisinier en Espagne, qui a été cuisinier en France. Et conclusion, on grossit tous parce que bon, on a de la cuisine mélange franco-péruvienne tous les jours et en grande quantité. Donc, mais le but c'est ça. Le but d'une tournée, c'est faire la fête, c'est être ensemble pour faire quelque chose.
Bon appétit.
Merci.